cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 4 octobre 1996 à Saint-Jeudard.
On me pose une question, c'est du reste une question de critique. Donc, il faut petit à petit bien comprendre la différence de position de la philosophie réaliste. Ceci est, et la critique. La critique présuppose la philosophie. Et elle est au service de la philosophie. Donc, son point de départ n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le point de départ de la philosophie. Et la critique présuppose cette connaissance et la possibilité de réfléchir sur chacun de nos actes de philosophie. Autrement dit, la critique doit être présente à toute notre philosophie. Et on doit pouvoir justifier tout ce qui est dit en philosophie. Alors, vous allez voir, c'est une très bonne critique, c'est une très bonne question pour situer où est la critique. Pouvez-vous montrer comment les deux points de départ de la philosophie, à savoir le réel, mesurant ma connaissance, ou ma connaissance mesurant le réel. Donc un point de départ juste et l'autre point de départ faux. Il n'y a pas deux points de départ, il y a un point de départ. Et puis il y a cet essai d'avoir un autre point de départ qui mesure aussi le point de vue philosophique, mais qui de fait ne le mesure pas. Puisqu'il est faux, à savoir le réel, mesurant ma connaissance, voilà le vrai point de départ. Ou ma connaissance mesurant le réel, voilà le faux point de départ. Se ramène aux deux positions de la philosophie grecque, l'être et le devenir. L'être, ceci. de ce qui est et le dépassement du conditionnement. Quand je reste dans mon conditionnement, je reste dans le devenir. C'est peut-être plus facile de comprendre cela. Il faut dépasser le conditionnement de ma vie intellectuelle pour saisir ce que l'intelligence saisit en propre. Et quand je saisis ce que l'intelligence saisit en propre, et que l'intelligence à ce moment-là affirme ceci, et mon intelligence dépasse le devenir et saisit ce qui est. Il semble aussi que pour montrer que le réel est premier par rapport à ma connaissance, il suffit de montrer que l'affirmation ceci est antérieure à ceci n'est pas. Comme vous le disiez à la fin du cours, pourriez-vous développer davantage? Donc, le réel est premier par rapport à ma connaissance. En ce sens que le réel détermine et spécifie ma connaissance. Ceci est. Tandis quand je dis ceci n'est pas est présupposé avant ceci n'est pas que ceci est. Et le langage le montre bien. J'ajoute la négation à quelque chose qui est affirmé. Donc, il suffit de montrer que l'affirmation ceci est antérieure à ceci n'est pas. Ceci est antérieure à ceci n'est pas. On voit bien que la négation vient ajouter quelque chose à l'affirmation. Et si la négation ajoute quelque chose à l'affirmation, elle n'est plus première. Seule l'affirmation est première, et la négation n'est plus première. Donc, le réel qui apparaît dans le ceci est immédiatement bien premier à ma connaissance, avant cette détermination de ce qui est. L'intelligence ne connaît rien. Elle ne peut se connaître qu'en connaissant ce qui est. Et donc, connaître la manière dont elle atteint ceci est. Et second, et c'est dans cette connaissance première, immédiate, du ceci est, que je saisis la détermination de ma vie intellectuelle. C'est sûr que je ne saisis pas ça tout de suite. Oui, c'est une question de critique, ça. Qu'est-ce qui est premier ? L'affirmation ou la négation. Et c'est très important. Alors, il y a plusieurs manières de le regarder. Il y a cette manière-là, par le langage. Cette chose qui est le plus simple. Mais je dois dépasser le langage. Mais le langage est un signe. Et ça, ce signe est net. Puisque ceci n'est pas. Et plus que ceci est. Si vous êtes attentif au langage, c'est net. La négation vient s'ajouter. Donc, elle est. Je veux dire, la négation vient s'ajouter. Elle est donc seconde. Elle n'est jamais première. Ça, c'est le point de vue critique le plus net. Alors, vous pouvez très bien dire, mais mon langage est un reflet de ma connaissance. Mais n'est pas ma connaissance, c'est sûr. Alors vous pouvez affirmer. part entre ma pensée et mon affirmation. Différence d'ordre. Mais pour montrer cette différence d'ordre, il faut la justifier. Or, de fait, cela ne justifie pas du tout. Et n'est justifié par rien. Au contraire. Je suis obligé donc d'affirmer a priori, sans m'appuyer sur le langage, que la négation est première. Et c'est vrai, quand vous regardez la manière dont Sartre montre que la négation est première, c'est a priori. Parce que tout me conduit à l'inverse. Si entre le langage et la pensée, il y a un ordre, il faut penser pour parler. Et donc, ce qui est plus fondamental, c'est la pensée par rapport au langage. Je peux donc dire que le langage est signe de ma pensée. Alors, passons tout de suite à la critique. Je vous ai rappelé la dernière fois que la critique est toujours seconde. C'est Kant qui veut que la critique soit première. Là encore, c'est un a priori. Parce que le langage me montre que je critique ce que je connais. Et l'expérience me montre cela aussi. Je ne peux pas critiquer quand il n'y a pas de pensée. Vous savez, lorsque vous êtes coincé dans une discussion, vous commencez à vous taire. Parce que si vous taisez, on ne peut pas vous critiquer. On ne critique pas le néant. On ne critique pas le silence. On critique ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait, tant le point de vue de l'action que le point de vue de la pensée. Alors, si on commence à vous critiquer au point de vue de votre langage, de votre pensée, vous avez deux attitudes, ou vous taire, ou, et en vous taisant, vous échappez à la critique. C'est pour ça que la critique, c'est pour ça que le silence est d'or, on ne peut pas le critiquer. Dès que vous parlez, vous pouvez être critiqué. Et c'est la même chose pour l'action. On peut vous critiquer dans la mesure où vous agissez. Si on critique votre manière d'agir, qu'est-ce que vous faites? Vous partez au désert, vous vous taisez, vous fuyez au désert. Là, on ne peut pas critiquer. Donc, il faut toujours se rappeler ça. Et la critique, au plan philosophique, justifier l'ordre que vous prenez en philosophie. Il vous montrer que l'ordre que vous avez pris est juste, qu'il correspond bien aux exigences propres de votre intelligence, c'est-à-dire d'une intelligence qui est liée aux images dans son exercice. Une intelligence qui ne peut pas se séparer du sensible. Elle peut le dépasser, mais elle ne peut pas s'en séparer. Une intelligence complexe. Alors que la pensée est simple. Et on explique pourquoi mon intelligence est complexe. Parce que justement, c'est une intelligence qui est liée aux sensations. intelligence qui ne peut pas se séparer de l'exercice de l'image, de l'imagination, et qui en a besoin. Alors, on réfléchit en premier lieu sur la complexité de ma connaissance. Et je peux tout de suite préciser qu'on ne peut critiquer que mon intelligence. Vous ne pouvez pas critiquer en premier lieu vos sensations. Vos sensations, c'est un donné. C'est complexe, mais c'est un donné. Et j'essaie de comprendre comment mes sensations en elles-mêmes sont premières et ne sont pas critiquables. Je peux me tromper, mais ce n'est pas critiquable. Il peut y avoir erreur à cause de la complexité de mes sensations, à cause de l'organe, des organes dont je me sers. J'ai les yeux qui baissent et donc je fais des confusions. Ça ne veut pas dire que mes sensations sont fausses. Ça veut dire que l'organe dont je me sers faiblit. Tandis que l'intelligence, dans son exercice propre, ne faiblit pas. Elle n'est pas complexe. Elle est au contraire simple, mais dans son exercice, elle est complexe. Et c'est pour ça que la première chose que je fais en critique, c'est de bien distinguer chose et sur cette vie intellectuelle qui est mienne et qui transforme le réel. Je peux tout de suite comprendre que ce réel que j'atteins, que j'essaie d'atteindre dans toute sa force, implique deux grands aspects. Je sais devant, jusqu'à l'universel. La vie intellectuelle implique toujours et tout de suite ces deux modalités, singulier, universel. Et d'une certaine manière, ces deux modalités de connaissance qui m'apparaissent tout de suite. Que ce soit universel, que ce soit singulier, ces deux modalités ont deux significations différentes, ou plus exactement deux modalités différentes par rapport à ce qui est saisi, par rapport à ce qui est. Un philosophe de voir ce qui pour lui savoir ce que c'est grâce à lui que je peux affirmer que ceci existe. C'est pas en saisissant ce qu'il est que je peux affirmer cette primauté dans l'ordre de la signification. C'est en comprenant que il y a quelque chose qui s'impose à moi. Et comme étant vraiment ce que je connais en premier lieu et qui fait que toutes les autres choses existent grâce à lui. Le verbe être, à ce point de vue-là, apparaît comme ce qui permet que tout ce qui est affirmé existe en premier lieu. Donc c'est la réalité du verbe et du nom qui sont corrélatives. L'un est premier dans un sens, l'autre est premier dans l'autre sens. Et ils s'appellent mutuellement. Si tout était non, comme le nom, il n'y aurait pas de possibilité de sortir de l'appréhension. Parce que tout serait saisi par mode qualitatif, par mode de détermination. C'est le verbe qui permet que le nom m'apparaissent comme autre que moi. Et ce n'est pas la détermination, mais c'est le verbe, comme distinct de moi, et donc comme étant son caractère propre. Il y a donc bien dans le verbe quelque chose de plus actuel, à l'affirmation du verbe de séparer ma connaissance de ce qui est connu. Ce que je ne peux pas faire par le nom, où j'ai au contraire une assimilation parfaite. Je peux donc tout de suite comprendre que ma connaissance la plus simple signification. Il montre bien ce qui est premier dans cet ordre de la signification. Ceci signifie quelque chose de premier, très indéterminé, le plus indéterminé possible pour pouvoir envelopper dans son universalité le plus de choses possible. Et je suis donc en présence de cette première signification de la détermination des choses selon un mode le plus universel qui soit. Apparaît à ce moment-là la naissance de l'universel générique. Ceci, ça enveloppe toutes les réalités qui existent, qui impliquent tout le temps une détermination. Ceci, on est en face du genre le plus universel. Ceci. Et dans le ceci, il peut y avoir des déterminations très multiples. Et je découvre alors ce qu'on a appelé les prédicables, les premières déterminations de ma vie intellectuelle, le genre, la différence spécifique, l'espèce, et puis les déterminations qui s'ajoutent comme la différence spécifique. Et enfin, la détermination particulière de ceci dans sa singularité. Et je suis en présence des cinq prédicats. Spécifique,